Je compte sur vous. Je compte sur vous. Je compte sur vous un lundi sur deux à 10h, en rediffusion le jeudi à 17h30. Une émission comptée par Michel Galaré.
Bonjour, elle est pas belle la vie? C'est le titre du spectacle que je vous raconte en plusieurs épisodes. Vous vous souvenez du premier épisode? Allez, c'est Léon, il est sur sa barque. Il pêche et il a remonté un vase. C'est un vase en cuivre, ciselé. Il n'y a rien dedans. Mais, enfin, qu'il croyait qu'il n'y avait rien. Parce que justement, on s'est arrêté le dernier coup où il a posé le vase au fond de la barque. Il est en train de ramer. Quand d'un seul coup sort du vase une petite fumée. Et cette petite fumée grandit et devient comme un nuage carrément. Elle prend même forme qui se rapprocherait de la forme humaine. Peut-être un fantôme, vous voyez? Enfin, quand même, on distingue comme une tête avec deux yeux, deux trous et une bouche. Mais vraiment grande, hein? Au moins 2 mètres de haut, quelque chose comme ça, quoi. Et la forme quitte le vase et va s'asseoir au bout de la barque, en face Léon. C'est un génie. Et Léon regarde cette forme, mais je vous préviens, Léon c'est quelqu'un qui perd jamais son sang-froid. Il se laisse pas impressionner par des petites choses de rien du tout, ni même par un génie. Et d'un seul coup, il voit quand même le mandibule du génie qui bouge, et le génie lui dit « Pêcheur, je vais te tuer. Choisis ta mort. » Bon sang, Léon est déjà surpris que le génie parle, mais surtout pour dire ça. « Ah ben bravo, moi je te libère du vase, et pour me remercier, tu veux me couper la tête, quoi. Ah, quelle ingratitude, dit Léon. » Et le génie lui dit « Attends, faut que je t'explique quand même pourquoi. » Oui, enfin tu peux expliquer quand même, moi j'ai pas envie de perdre la vie, hein. Écoute-moi bien. Tu sais, je suis depuis très très longtemps dans ce vase. Il y a des siècles et des siècles, j'étais un génie rebelle. Tu sais, de ceux qui contestent tout, là, il y en a encore quelques-uns comme ça. Et le seigneur de Saint-Cyr la Popie ne m'aimait pas du tout. Parce que je contestais ce qu'il faisait, évidemment. Ben jusqu'au jour où il m'a fait arrêter par ses soldats, ils m'ont fait brûler sur la place publique, ils ont broyé mes os, ils ont tout mis dans ce vase-là, ils l'ont fermé avec un bouchon, scellé avec du plomb, et c'est le Seigneur lui-même qui est monté sur le rocher là-haut, qui a fait tourner le vase et qui l'a lancé dans la rivière. Et le vase est descendu au fond. Et tu sais, la vie au fond d'un vase, c'est long, hein. Alors, j'ai pris des mots, une phrase comme ça. Je me suis dit, celui qui me libérera, je le ferai roi. Et puis j'ai répété la phrase. Je l'ai répétée pendant des années, des décennies, des siècles. Je ne sais pas si tu sais, mais les mots, les phrases, elles s'usent. Alors je l'ai usé, j'en ai pris une deuxième, celui qui me libérera, je le ferai roi parmi les rois, et ainsi de suite. Mais elle s'est usée et toutes les autres se sont usées. J'ai usé tous les mots, toutes les phrases comme ça, à travers les siècles. Et là, juste avant que tu me repêches et que tu me sortes du vase, je me suis dit, puisqu'il en est ainsi, celui qui me libérera, je le tuerai. Alors choisis ta mort, pêcheur. Eh bien, dis donc, a dit Léon, sacrée histoire, hein? Mais tu sais, moi, j'ai pas envie de mourir. Alors, si tu avais un joker, si tu pouvais me laisser la vie sauve, ça m'arrangerait bien. Surtout qu'elle est chouette, la vie, quoi. Elle est belle, hein. Et le génie fait semblant de réfléchir. Et il dit, il y a peut-être une solution. Ah, tu vois, quand tu veux quand même, hein. Dis-moi, quelle solution tu as trouvée? Alors, je vais te dire. Moi, je suis un génie qui adore les histoires. Mais des histoires, j'en connais des dizaines, des centaines, des milliers peut-être. Et j'étais en train de me dire que si tu arrives à me raconter des histoires que je ne connais pas, eh bien tiens, je te laisse la vie sauve. Des histoires que je ne connais pas. Ah oui, parce que si je les connais, méfie-toi, tu vois ce que je veux dire. Et Léon, il s'est mis à rire. Et dit des histoires. Eh bien, tu tombes bien, parce que moi aussi, j'adore ça, les histoires. Mais tu sais, moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Alors, les histoires, je ne les ai pas écrites, et je ne les ai pas lues non plus. Je les invente. Et quand j'invente une histoire, je la raconte en pêchant. Ou bien, si je vais me promener dans les bois, je la raconte pour les oiseaux, pour les arbres. C'est à peu près tous ceux qui m'écoutent, hein. Tiens, il m'en vient une là, je te la raconte. C'est l'histoire de Marcel. Tu connais Marcel? Et le génie dit, non, moi je connais personne ici. Hein. Ça fait longtemps que j'habitais ici. Eh bien Marcel, il habite sur le Causse là-haut, dans cet endroit sauvage que certains voudraient bien détruire, mais bon. Il habite une petite maison avec Léonie, c'est sa femme. Une petite ferme, là. Marcel, il avait un don. Enfin, certains disaient un don, mais je ne crois pas. Il travaillait. Il jouait de l'accordéon. On dit qu'il tenait cela de son père. C'est vrai que son père, déjà, animait les bals dans la région, dans les auberges. Tu sais, autrefois, on faisait des bals comme ça, là. Et Marcel, il fait pareil. Il va animer les balles. Mais Marcel, il est encore plus virtuose que son père. Il faut le réserver au moins un an à l'avance, sinon on ne peut pas l'avoir, quoi. Mais alors, quand Marcel est là, on passe une belle soirée, hein. C'était l'hiver. Ça faisait un mois qu'il gelait à Pierrefendre. C'était un hiver, si je me souviens bien, de 13 lunes. Une année de 13 lunes, un peu spéciale. On était peu de temps avant Noël. Et Marcel devait aller animer ce dimanche-là un bal dans un village de la vallée, là, à une vingtaine de kilomètres. Mais à l'époque, c'était à pied. Hein. Alors ce matin-là, quand il s'est levé, il a soufflé sur les braises, remis des brindilles, redémarré le feu, mis à chauffer la marmite. Sa femme, elle était au lit. Faut dire que c'était pour la première fois, elle avait le ventre rond, Léonie, très rond. Alors Marcel, il s'est habillé chaudement avec son grand pantalon de velours noir, son gilet. Il a pris sa pèlerine, son chapeau, mais non, je vais trop vite là. Il a d'abord déjeuné, bien, correctement. Il a mis l'accordéon dans sa sacoche, et dans la sacoche, il mettait toujours des partitions aussi. Il s'en servait jamais, mais il mettait, on ne sait jamais. Et puis il a fait un gros bisou à Léonie. Hein, je te promets, je rentrerai ce soir. C'est vrai que parfois, quand il allait jouer, Marcel, loin, il ne rentrait que le lendemain. Mais dans l'état où était Léonie, non, il rentrerait ce soir. Allez. Il a pris sa pèlerine, son chapeau. À ce soir, ma chérie. Et quand il a ouvert la porte, le temps avait changé. De gros nuages noirs avaient envahi le ciel et il faisait beaucoup moins froid. À tel point que Marcel n'a même pas mis sa pèlerine. Il a juste mis son chapeau, puis il est parti. Il est monté là-haut sur le pêche. Vous savez, au bout du pêche, il y a un dolmen. Et c'est quand il est arrivé près du dolmen que la neige s'est mise à tomber. au début. C'était des flocons tout fins, tout petits. Mais sur ce sol gelé, la couche de neige a tenu. Puis les flocons se sont faits plus drus, plus épais, plus gros. Et la couche est montée. Quand il est arrivé en bas, au village où il devait jouer, il y avait bien 20 cm de neige, peut-être même 25. Il est allé d'abord au bord de la rivière avant de rentrer dans l'auberge. L'auberge, elle n'était pas loin de la rivière, sur la place du Faubourg, là-bas. La rivière, vous n'allez pas me croire, elle était gelée. Mais gelée, d'un côté à l'autre, on pouvait la traverser. Cet hiver-là, il avait fait tellement froid. Non, mais vous n'allez pas me croire. Que les canards qui nageaient sur la rivière ont eu les pattes prises dans la glace. Et ils ne pouvaient plus s'envoler. Il a fallu que des gens coupent les pattes aux canards pour qu'ils puissent s'envoler. Non, non, mais je vous rassure, ce n'est pas vrai. Hein. Mais il faisait tellement froid cet hiver-là que les feux dans la cheminée, on était obligé de les attiser sans arrêt, sinon les flammes gelaient. Non, non, c'est pas vrai, c'est pour rire. En tout cas, Marcel, il est allé devant l'auberge, il a tapé ses pieds pour faire tomber la neige et puis il a ouvert la porte. Waouh, quelle ambiance à l'intérieur! Et on l'a accueilli, on l'a applaudi. Marcel, on le connaissait et on savait qu'on allait passer un bon moment. L'auberge, elle était grande. Il fallait descendre 3 marches pour arriver dans la salle. Il y avait d'abord au milieu une grande partie en parquet. C'était la piste de danse. Là, il n'y avait pas de table. On les avait enlevées. Sur le côté, il y avait des tables pour 3, 4, 5. Et là, il y avait plein de jeunes gens, des jeunes filles qui attendaient, les yeux déjà pétillés. Et complètement à gauche, là, il y avait contre le mur des alcôves avec même un rideau qu'on pouvait tirer, vous voyez, un petit peu. Et c'est vrai, c'était plus intime quand même. Il y avait juste 2 places dans les alcôves. De l'autre côté, il y avait une grande cheminée et le feu pétillait dedans. Et auprès de la cheminée, une grande table où étaient les hommes qui préféraient le vin chaud à la danse. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Dans le coin, une petite estrade avec une chaise, c'était pour le musicien. Marcel est allé poser son accordéon, sa pèlerine, son chapeau. Et puis il est allé saluer ses amis, bien sûr. Et Dieu sait s'il en avait. Et une fois qu'il a eu salué ses amis, il est passé devant le feu, il a fait chauffer ses mains, claquer les phalanges, comme on fait de temps en temps. Et il est monté sur l'estrade, il a sorti l'accordéon. De suite qu'il a sorti l'accordéon, vous auriez vu les yeux des filles comme ça pétiller. Les garçons, ils piaffaient d'impatience, on voyait les pieds qui bougeaient et tout. Ça y est, ils allaient pouvoir les faire tourner. Les soirées se passaient toujours de la même façon avec Marcel. On dansait pendant une bonne heure, et puis il s'arrêtait pour faire une pause. L'aubergiste lui payait une soupe, de quoi se restaurer un petit peu, reprendre des forces, et après on dansait encore 1 heure, peut-être 2, ça dépendait. Mais Léonie, cette année-là, avait le ventre rond. Et on a dansé. Alors je vous laisse énumérer toutes les danses qu'on a pu danser à ce moment-là. Les valses, les tangos, les rondes, les bourrées, les mazurkas, et j'en passe, c'est des meilleurs. On a dansé une bonne heure. Et Marcel s'est aperçu que se tissaient des fils dans les yeux de certains couples. Alors il a étiré les dernières mesures. Et justement, ces couples-là, quand il a arrêté, ils sont partis dans les alcôves. Certains ont même tiré le rideau. Bon, voilà. Tout le monde est allé s'asseoir. Lui, il s'est assis à la table des hommes, vous savez, devant la cheminée, là. Et le patron lui a amené une assiette de soupe, une assiette de charcuterie et puis une bouteille de vin. C'est à ce moment-là qu'un des hommes de la table, oh, il avait une 40aine d'années, il avait le nez rouge, hein, quand même, très rouge. Il s'est levé, il avait besoin d'aller éliminer certainement quelques verres de vin chaud Ou peut-être dessiner des arabesques jaunâtres sur la neige, je sais pas, enfin, ouais. Il a rejoint la porte, pas vraiment en ligne droite. Hein. Et il a ouvert la porte, on a senti le vent frais qui rentrait. Ah mais il n'est pas sorti longtemps, hein. Il est revenu. Il était blanc comme un linge quand il a ouvert la porte et il s'est mis à bégayer. Il y a là sur la place un cavalier noir. Il n'a pas eu le temps de finir la phrase. Derrière lui, un homme grand, maigre, le visage pâle, tout habillé de noir, chapeau noir, grande cape noire, bottes noires. Il est entré, tous les yeux se sont tournés vers lui. Le silence dans l'auberge. L'homme a levé son chapeau, sa cape, et il s'est dirigé vers la grande table, justement. Il y avait une place libre en face Marcel. Il s'est assis et il a commandé un verre de vin chaud. Et puis, les discussions ont repris. Et les couples qui attendaient pour danser de nouveau se sont mis à discuter. On a un petit peu oublié cet homme-là. Mais à la grande table, au bout de la table, il y avait un vieux du village. Tout le monde le connaissait pour son côté taiseux. Il ne parlait pas beaucoup. Il disait que l'essentiel. Alors cet homme-là regardait le cavalier noir d'un drôle d'œil. Et au bout d'un moment, il lui dit... Kalaïma doncha per benion de kelten. Danser, moi, a dit le cavalier noir. Vous plaisantez? La musique qui me ferait danser n'a pas encore été écrite. Méfie-toi, dit le vieux. O quel homme que a j'aime facho des tuches pour y offrir doncha l'oudrak. Quoi? Cet homme-là, ce musicien, pourrait faire danser le diable. J'aimerais bien voir ça. Marcel a fait mine de rien. Il a terminé son assiette. D'un revers de manche, il s'est essuyé les lèvres. Il s'est levé. Il a chauffé ses mains devant le feu. Il a fait claquer ses phalanges. Et il est reparti sur l'estrade. Arrivé sur l'estrade, il a pris son accordéon, mais tout le monde le regardait. Et déjà, les yeux des filles pétillaient, les garçons piaffaient d'impatience. Ça y est, ils allaient pouvoir redanser, mais il y avait quelque chose de bizarre. Il était beaucoup plus lent, Marcel, que d'habitude. Et surtout, il avait fermé les yeux alors que d'habitude, il ne fermait pas les yeux. Il a posé ses doigts sur les touches de nacre et il a attendu. Et au bout d'un moment, une mélodie a commencé à vivre. Et il a commencé à jouer un petit peu plus fort. Et sous la grande table, le cavalier noir, il a senti des fourmis dans les pieds. Et ses pieds se sont mis à bouger. Mais Marcel commençait à jouer plus fort, plus vite. Ses jambes du cavalier noir, elles se sont mises à bouger dans tous les sens. Il a dit non, non, non. Alors il s'est accroché à la table. Mais au bout d'un moment, il n'a pas pu s'empêcher de se lever. Et il se retrouvait tout seul, au milieu de la piste. Et Marcel commençait à jouer encore plus vite, plus fort. Et le cavalier noir a entamé une danse qu'on n'avait jamais vue. Il jetait ses bras vers le ciel, en avant, en arrière, complètement désarticulé, les jambes pareilles, et la tête qui se dodelinait de partout. Alors Marcel a joué plus vite, plus fort, et le cavalier noir suivait le rythme. Il continuait cette danse risible, ridicule. Les gouttes de sueur coulaient sur ses joues, et pourtant il restait blanc, livide. Et Marcel a continué. Et au bout d'un moment, le cavalier noir est tombé sur la piste comme une poupée de chiffon. Il s'est traîné jusqu'à sa chaise. Il s'est appuyé sur sa chaise pour se relever. Il a saisi sa pèlerine, son chapeau. Il a regardé le musicien et en le montrant du doigt, il lui a dit « On se retrouvera ». Et puis il a quitté l'auberge. Et de suite, Marcel a repris la danse, la musique, pour faire danser cette fois. Et les couples se sont reformés, ils ont dansé, oh, vous les connaissez les danses, mais... Ils ont dansé une bonne heure. Et Marcel a pensé à Léonie, son ventre rond. Il faut que je rentre. Alors il a étiré les dernières mesures. Il a posé l'accordéon. Il l'a rangé dans la sacoche, il y avait toujours les partitions. Il ne s'en était pas servi, bien sûr. Il est allé boire un dernier vin chaud. Ses amis l'ont salué. C'est là que le vieux, au bout de la table, lui a dit « Tu ne devrais pas rentrer. J'aime pas cette histoire. Avec ce cavalier noir. Tu devrais rester là. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas, » a dit Marcel. Léonie va accoucher d'un moment à l'autre. Je dois être là-bas. Allez. » Le patron lui a glissé une enveloppe dans la poche. Il a salué tout le monde et il est sorti sous les applaudissements, bien sûr. Quand il a ouvert la porte, le temps avait changé encore. Le vent avait chassé les nuages et il faisait froid. C'était la pleine lune. Clair de lune. Il allait quitter cette ambiance d'auberge avec les lumières blafardes, l'odeur de vin chaud, l'odeur de tabac, les rires, les joies pour partir dans la neige. Au moment où il allait mettre le chemin sous ses pas, il avait bien mis son manteau, son chapeau, il a entendu le souffle d'un cheval. Il s'est retourné. Et là, devant l'auberge, le cavalier noir était sur son cheval. Alors Marcel, lui, il a sorti la main de la poche. Il n'a pas fait attention, le mouchoir est tombé par terre. Et il a tendu la main au cavalier noir. Allez, sans rancune, hein. Mais le cavalier noir n'a pas pris la main. Il dit alors, tu rentres chez toi, musicien. Tu n'as pas peur? Peur de quoi? Ah, je sais pas, des brigands? Non, il n'y en a pas de brigands ici. Et tu n'as pas peur des loups? Alors Marcel, il a haussé les épaules, il a tourné les talons. Et il est parti. Il fallait d'abord remonter là-haut, sur le plateau. Le chemin serpentait à travers la colline. La couche de neige était épaisse. Quand il est arrivé sur le plateau, Marcel était fatigué. Avec sa main, il a chassé la neige d'une grosse pierre plate, là, et il s'est assis. Il a savouré ce silence. C'est vrai. On n'entendait rien. Il se sentait seul au monde. Pourtant, si vous écoutez le prochain épisode, vous saurez ce qui va lui arriver. Au revoir.
Je compte sur vous. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Un lundi sur deux, à 10h, en rediffusion le jeudi, à 17h30. Une émission comptée par Michel Galaret.